RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, le Tour de France a repris la route aujourd'hui en direction de Revel pour cette 10e étape du Tour de France. Il va également regagner la France, c'est d'ailleurs déjà fait depuis quelques minutes après avoir passé quasiment 48 heures en Andorre. 10e étape donc de ce Tour de France, 197 km au programme aujourd'hui entre Andorre et Revel. Toute l'équipe du Tour évidemment jusqu'à 18h pour vous faire vivre au mieux cette étape, une étape de semi-transition. On va voir un peu avec Fred et tous nos experts ce qu'ils en pensent, comment on peut caractériser cette étape. En tous les cas, on vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live. Vous nous donnez le nom de l'épisode du jour, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Je lirai évidemment les meilleures citations tout à l'heure à l'antenne. Ils sont là avec moi, prêts à vous faire vivre cette 10e étape du Tour de France. J'ai nommé le druide Cyril Guimard, en pleine forme. Salut Cyril.
Oui, bonjour, en pleine forme, c'est normal. Il y avait une étape de repos hier.
Oui, oui. Est-ce que l'étape de repos a fait du bien au druide? Est-ce qu'il est reparti sur des bases élevées?
Ah, sur des bases élevées, ben c'est normal, hein. On avait en Valira au départ, donc il fallait quand même être costaud, hein.
Exactement, oui, c'est vrai que le hors-d'œuvre de l'épisode du jour était de l'étape du jour.
Mais plus on a fini dans le brouillard, d'accord.
Oui, 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 exactement. Plus très clair, mais... on va justement aller faire un tour sur la moto RMC pour y retrouver Georges Quirino, toujours en compagnie de Marc Combe, notre motard. Bonjour messieurs.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Alors Georges, Cyril en parlait il y a quelques instants, le brouillard, hein, oui, c'est un peu le menu du début de cette étape, menu corsé, oui. Puisqu'il y avait également l'escalade du port d'Envalira qui est le toit du Tour en cette année 2016. Et sitôt passé ce col, une descente dans une purée de points incroyable.
Oui, on ne voyait pas 50 mètres devant nous. On avait pris un petit peu de champ pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais c'est vrai que cette descente, c'était impressionnant. Hein. Sur plus d'une dizaine de kilomètres, très difficile de voir devant nous. Heureusement, c'était pas une descente très technique avec une route assez large tout de même. Mais voilà, on est dans les nuages. La route est un peu mouillée du coup. Donc les coureurs ont pu passer sans encombre, visiblement. Mais en tous les cas, ce début de Tour de France nous offre quand même des conditions absolument incroyables. Hein. Je pourrais te le résumer en quelques mots, Christophe, si tu veux. Hein. Les 10 étapes du Tour, ça peut rentrer dans un tweet. Hein. C'est froid, vent, froid, 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 chaud, 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 grêle, froid, brouillard, froid.
Voilà. Voilà. Bon, et pour le reste, on espère qu'il y aura un peu de chaud, mais pas trop, hein, parce que on arrive évidemment dans le sud de la France et que les prévisions sont plutôt optimistes pour la suite de la semaine et notamment pour jeudi avec l'ascension du Mont Ventoux qui sera l'un des grands moments de ce Tour de France 2016. On revient vers toi dans un instant, Georges, pour la carte postale, mais on va accueillir Fred Adam, évidemment, comme tous les jours, il est avec nous. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Alors Fred, on va faire un premier point sur la course, même si nous n'avons pas encore d'image ici à l'arrivée à Revel, donc on va compter évidemment sur les yeux de Georges Quirino, mais on n'a pas les yeux, on a les oreilles, Fred, avec Radio Tour qui nous donne des indications sur ce qui se passe en tête de course, le top course, c'est parti.
Avec un peu plus de 125 km à parcourir, le gros morceau du jour, le port d'Envalira, classé tout à l'heure en première catégorie, long de 22 km, cette ascension à la sortie d'Andorre a été franchie et ce début d'attaque a été marqué par ce début d'étape a été marqué par de nombreuses attaques. Un groupe de 13 coureurs est en train de se former à l'avant avec une avance infime sur le peloton. Parmi ce groupe de 13, on trouve là Vincenzo Nibali, l'Italien, vainqueur du Tour il y a 2 ans, Peter Sagan, le champion du monde, Michael Matthews, un Australien, Stephen Cummings, vainqueur d'étape un peu plus tôt depuis le départ de ce Tour de France, également présent Rui Costa, le Portugais, ancien champion du monde, l'Espagnol Izaguirre, l'Italien Caruso, le Français Samuel Dumoulin, et puis un autre Français vient de recoller. C'est Tony Gallopin que l'on avait du mal à voir à l'avant de la course depuis le départ de ce Tour de France. Et bien peut-être qu'un nouveau tour commence pour le coureur de l'équipe Lotto-Soudal. Boasson Hagen, le champion de Norvège, est également là, tout comme l'Australien Durbridge et le Sud-Africain Imbe, 13 coureurs à l'avant. Il reste une longue route à travers les routes ariégeoises, notamment la Haute-Garonne et le Tarn, avant l'arrivée ici à Revel via la côte de Saint-Féréol à quelques kilomètres de l'arrivée.
Exactement, nous aurons une petite côtelette pour terminer terminer cette étape qui pourrait être fatale à certains sprinteurs. On va en parler dans quelques instants. On retourne tout d'abord sur la moto RMC. Georges a des indications supplémentaires à nous apporter.
Et oui, puisqu'on sera à vos yeux visiblement avec deux coureurs qui viennent de sortir du groupe de tête. Il s'agit du champion du monde Peter Sagan, accompagné du français qui était présent dans la grosse échappée, c'est Samuel Dumoulin, et ils ont une quinzaine de secondes d'avance. On voit leur ancien groupe d'échappée, leur ancien compagnon d'échappée qui sont derrière, mais voilà les deux garçons qui viennent de sortir du groupe de tête, Sagan donc et Samuel Dumoulin.
Alors Peter Sagan, on le rappelle, qui vise le maillot vert sur les routes de ce Tour de France. Cyril, quelle est son idée, quelle est l'idée derrière la tête de Sagan aujourd'hui? Passer, aller chercher la victoire d'étape, pourquoi pas résister au retour du peloton tout à l'heure?
Ah, c'est l'objectif, essayer de reprendre un maximum de points à Mark Cavendish. Donc là, son attaque vraisemblablement ne va pas être couronnée de succès. Le peloton, je pense, va revenir, les écarts sont encore très faibles, encore qu'en bas de la descente ça pourrait se relever complètement au niveau du peloton, mais Cavendish n'est pas dans le peloton. Donc ça veut dire que tant qu'il maintient la pression devant, Cavendish ne peut pas rentrer, et il pourrait donc, notre ami Sagan, aller chercher les points, même s'il y avait regroupement au sprint intermédiaire. C'est son objectif, il est clairement défini actuellement.
Alors c'est vrai qu'on parlera tout à l'heure de la lutte pour le maillot jaune, qui est sans doute très serré, et l'une des plus serrées d'ailleurs de ces 10 dernières années, mais il y a un autre classement qui est pour l'instant est très indécis, Cyril, c'est le classement du maillot vert, le classement par points. C'est vrai que Sagan nous a habitués ces dernières années à dominer ce classement. Là il est deuxième, mais il est très proche de Cavendish, je crois qu'il y a 7 points d'écart entre les deux. Est-ce que là aussi il y a une incertitude quant à ce maillot vert ramené sur les Champs-Élysées? Est-ce que Cavendish peut vraiment embêter Sagan? Est-ce que Cavendish peut aller jusqu'à Paris? On sait qu'il prépare également les Jeux Olympiques.
C'est la question.
Eh ouais, c'est ça la question.
La question, c'est est-ce que Cavendish ira jusqu'à Paris? Moi, j'avais à moitié imaginé qu'il n'allait pas repartir de Andorre, parce qu'il a quand même son objectif, j'ai presque envie de dire principal de la saison, que sont les Jeux Olympiques.
Qu'il disputera sur la piste.
Donc il y a une réadaptation à l'effort sur piste, au coup de pédale, et puis un certain nombre d'ajustements. Eh bien non, il a continué, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, c'est parfait. Est-ce qu'il ira jusqu'à traverser toutes les Alpes pour arriver à Paris? Et s'il va jusqu'à Paris, il lui restera que 2 semaines pour les Jeux. C'est quand même un petit peu court, enfin, me semble-t-il. Mais Sagan, pour la première fois, a véritablement un adversaire pour ce maillot vert si Cavendish va jusqu'à Paris. Donc il est obligé d'aller prendre des points là où Cavendish ne peut pas en prendre, car sur les arrivées où les sprinters pourront encore en découdre, Cavendish va quand même un tout petit peu plus vite que Peter Sagan.
Ah ouais. Il va plus vite dans les sprints purs, mais il est capable de passer partout, Fred. C'est l'avantage de Peter Sagan par rapport à Cavendish, et des points, il n'y en a pas qu'à l'arrivée, il faut aller les chercher un peu partout.
Et cette lutte entre Cavendish et Sagan vire effectivement un peu à l'intox. On se disait tous que Cavendish quitterait prématurément la route du Tour de France après notamment avoir remporté 3 étapes depuis le départ de ce Tour. Le fait qu'il ne se découvre pas, qu'il ne déclare pas qu'il va bel et bien partir pour préparer les Jeux Olympiques, eh bien cela oblige Peter Sagan à se lancer dans le type de raid le même que celui qu'il est en train de réaliser en ce moment, à la sortie de la montagne, avec une grosse dépense d'énergie dans les cols, des raids de loin qui vont fatalement le rendre émoussé en fin d'étape, et pour l'étape de demain à Montpellier également. Cavendish le fait travailler à distance, puisque Cavendish a bien du mal à suivre le peloton, et pour cause aujourd'hui en ce début d'étape andorran. Plus Sagan se dépense dans la journée, moins il a de gaz pour les sprints, et dans cette cas-là, Cavendish élimine de facto un adversaire. C'est bien vu, c'est l'intox.
Voilà, l'intox à tous les niveaux, dans tous les classements de ce Tour de France. Donc Peter Sagan, on vous le rappelle, en tête, dans un groupe de tête. Hein, combien de secondes d'écart par rapport au peloton maillot jaune, Fred?
Alors une 50 22 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune et 25 secondes sur un groupe de contre-attaquants où l'on trouve deux Français, Samuel Dumoulin et Tony Galopin. On attend quand même confirmation de la présence de Samuel Dumoulin parce qu'on a d'autres informations qui mentionnent notamment la présence de Sylvain Chavanel. 1 minute 20, dernier pointage, l'avance des deux hommes de tête, donc Peter Sagan et Samuel Dumoulin. C'est bien Samuel Dumoulin qui est en compagnie du champion du monde Peter Sagan qui se découvre et ça y est, on se relève dans le peloton. Apparemment, la bonne échappée est partie.
Voilà, on se relève. Effectivement, Chris Froome ne fait plus rouler ses hommes. Il est même en discussion avec l'un de ses principaux adversaires, Alejandro Valverde. Ça plaisante tranquillement dans le peloton. On n'a pas l'air de s'affoler, hein.
Oui, et confirmation, Sylvain Chavanel est bien dans le groupe des contre-attaquants. Donc la situation de course est très claire. Deux hommes en tête, Peter Sagan et Samuel Dumoulin, le lutin de l'équipe AG2R La Mondiale avec le champion du monde. À 30 secondes, un groupe de 10 contre-attaquants où l'on voit Cummings, Impey, Durbridge, Caruso, Tony Galopin, Vincenzo Nibali est là, Izaguirre l'Espagnol, Rui Costa le Portugais. On aperçoit un coéquipier de Christopher Froome, un coureur de l'équipe Sky. Et puis le champion de Norvège notamment est là, Boasson Hagen, ainsi que le dangereux sprinter Michael Matthews. Le peloton maillot jaune est à 1,25. Il reste 127 km à parcourir.
Un beau petit groupe, hein, Cyril, avec quelques noms clinquants quand même du peloton international. Si le groupe maillot jaune se relève, ça peut leur sourire aujourd'hui.
Oui, c'est bien parti pour, et ça ferait les affaires de Peter Sagan, mais les Français sont aussi bien représentés, entre autres avec Galopin et puis également Samuel Dumoulin qui va également vite au sprint.
Et Chavanel.
Et Chavanel qui peut éventuellement sortir dans le final, mais on l'a même vu d'ailleurs gagner des sprints massifs, ne serait-ce que sur Paris-Nice. Donc une échappée qui peut aller loin, il n'y a personne de véritablement dangereux au classement général, donc la possibilité d'une échappée et donc une nouvelle fois sur Revel, eh bien ça ne sera pas un sprint massif. Enfin, attendons quand même un petit peu avant de vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué.
Et exactement, mais c'est vrai qu'on espère quand même que les baroudeurs vont pouvoir régler leur compte aux sprinteurs dans ce Tour de France, les baroudeurs qui n'ont pas eu trop de chance, même s'il y a eu quand même de belles victoires, notamment l'autre jour pour Dumoulin, mais c'était une étape de montagne. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino qui est à l'avant de la course, donc avec ce groupe de tête, Georges.
Oui, avec Peter Sagan, le maillot de champion du monde sur les épaules pour le Slovaque, qui est accompagné du petit coureur français de la formation AG2R La Mondiale, Samuel Dumoulin, alors qu'il rentre dans la localité de La Remise pour la tête de course. Et on voit derrière eux désormais dans cette longue ligne droite, on va dire 25 secondes derrière eux le groupe de poursuivants de 13 coureurs où se trouve notamment Sylvain Chavanel, où se trouve Greg Van Avermaet, se trouve Tony Galopin également. Ils les ont en ligne de mire pour l'instant. On voit même d'ailleurs ce groupe se rapprocher désormais des deux hommes de tête du groupe Sagan Dumoulin, donc ils pourraient dans quelques instants être rejoints pour reformer à nouveau une grosse échappée de 15 coureurs à l'avant.
Parfait, 125 km encore à parcourir avant l'arrivée tout à l'heure à Revel. Évidemment, on suit cette étape jusqu'à 18h sur RMC, mais c'est l'heure de la carte postale de Georges Quirino, justement.
Partout en France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions avec Enedis, l'électricité en réseau.
Voilà, Georges qui nous raconte les lieux qu'il visite avec son fidèle compère Marc Comte et qui nous rappelle également ces lieux historiques où il se passe évidemment, où il s'est passé des choses sur la route du Tour. Sur toutes les routes de France, il s'est passé quelque chose. Alors aujourd'hui, sur cette étape, qu'est-ce que tu vas nous raconter, Georges ?
Oh ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure parce que c'est certainement l'endroit mythique de cette étape. C'est le port d'Envalira, port qui veut dire col, hein, en catalan. Port d'Envalira, ça colle d'Envalira, donc pour nous que l'on a passé tout à l'heure. C'était le plus haut col routier des Pyrénées. C'est d'ailleurs toujours le plus haut col routier des Pyrénées, à 2409 mètres d'altitude. On a passé tout simplement le toit de ce Tour de France, le col le plus haut. Et du coup, au sommet, on a eu la remise symbolique du sommet. Souvenir Henri Desgranges du nom du créateur du Tour de France avec Géo Lefebvre. Le souvenir Henri Desgranges, c'est toujours pour le passage au sommet du plus haut col quand il n'y a pas le galibier. Quand il y a le galibier, le souvenir Henri Desgranges toujours donné au sommet de cette ascension tout à l'heure. Donc c'est Rui Costa qui est passé en tête. On est passé dans cette ascension en Andorre devant la station de Soldeu, Christophe, qu'on connaît bien parce que la Coupe du Monde de ski notamment a souvent lieu là-bas. D'ailleurs, je me souviens avoir vu là-bas en 2012 une victoire de Tessa Worley sur un slalom géant. D'ailleurs, Zoldeo qui accueillera les finales de la Coupe du Monde en 2019. C'est la huitième fois que le Tour de France passait sur ce port d'Envalira. La première fois, c'était en 1964. C'était déjà mythique car il y avait eu, et on y reviendra d'ailleurs certainement un petit peu plus tard, on écoutera notamment le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, en parler. Il y avait eu en 1964 la défaillance de Jacques Anquetil dans cette ascension. Vous allez comprendre qu'il avait peut-être un peu trop abusé de la sangria, Jacques Anquetil, ce jour-là, mais il s'était refait dans la descente ensuite pour rattraper Raymond Poulidor. Voilà, huitième passage donc dans ce sommet. La dernière fois, c'était en 2009, c'était Sandy Cazard, ex-coureur de la FDJ, qui était passé en tête. Donc, et ensuite, on est redescendu, on a vu le circuit du Pas de la Case, la station du Pas de la Case notamment, pour ce mont mythique du Tour de France, col mythique.
Merci Georges. La sangria, on raffolait la sangria, on raffolait des alcools les plus divers et variés pendant un temps, Cyril Guimard, un temps que tu as connu peut-être, Cyril. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. On n'a pas vu beaucoup les coureurs prendre l'apéro hier au cours de cette journée de repos. Hein.
Non, effectivement, mais par le passé, nous ne prenions pas non plus l'apéro le jour des étapes de repos. Et on a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur la défaillance de Jacques Anquetil en 1964. J'étais encore très très jeune à l'époque. Et je crois que les choses se sont... Enfin, il y a la légende qui s'est faite. Et puis, je crois que dans la réalité, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme cela. Il n'empêche que Jacques Anquetil avait connu quelques difficultés sur les premières pentes d'Envalira. Il passait à plus de 4 minutes et il arrivait à revenir dans la descente. Il paraît qu'il y avait du brouillard. Donc ce qui lui a permis de revenir caché. Mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, bon, on fait pas beaucoup d'écart entre nous sur les étapes de repos. On a pu le voir aujourd'hui, puisque si on doit faire des écarts alors qu'on est dans une étape de normalement de récupération, de restructuration, et on sait que même pendant ces étapes-là, c'est là où il y a souvent le plus de dégâts. Et si vous avez bien entendu, dès le départ de cette étape, on avait quand même deux des coureurs favoris, tout du moins au départ du Tour de France, eh bien qui ont été lâchés dès les premiers ouais, contreforts. Il s'agissait de Pierre Roland victime d'une chute, et également Kelderman, qui le même jour avait été victime d'une chute. Donc vous voyez,
il y a souvent des défaillances d'ailleurs les lendemains des journées de repos.
Ça n'est pas que Jacques Anquetil. On parlera moins de Pierre Roland et de Kelderman que de Jacques Anquetil, mais la réalité est là. Les journées de repos font très mal aux jambes.
Ouais, ça fait très mal aux jambes. D'ailleurs, les coureurs continuent de rouler un petit peu pendant la journée de repos. Rennes, même si hier, c'était un peu compliqué parce qu'en Andorre, il n'y a pas beaucoup de routes plates. Hein. Ça monte, ça descend, mais pour faire du plat. D'ailleurs, certains, je crois, ont fait du rouleau
bien
hier.
Bien sûr. C'est vrai qu'Andorre est encaissée. Hein. La principauté d'Andorre est très, très montagneuse. Et c'est vrai que pour sortir d'Andorre la Vieille, on est obligé de monter un col ou une côte, un mur, parce qu'il y en a des pentes très prononcées. Mais rassurez-vous, les coureurs professionnels n'ont pas la même perception que nous, simples badauds, de la difficulté des routes. Oui. Et aller monter un col pour eux, eh bien, ce n'est pas forcément aussi épuisant que pour nous. Ils savent adopter un rythme, une cadence de pédalage, contrôler leur cœur et savoir faire de la récupération en ascension.
Ils vont au même rythme, par exemple, que le Gruppetto dans une étape de montagne.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça, avec quelques séances de déblocage, comme disent les coureurs, quelques petites accélérations pour provoquer la sudation, pour suer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faut éliminer les toxines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus fleurir les rouleaux, les home trainers qui permettent aux coureurs de tourner les jambes, de suer, d'adapter leur cadence de pédalage aux besoins de la récupération, sans bouger d'un seul mètre devant les hôtels, en général à l'abri des camions ateliers.
Alors, pas de sangria hier pour les coureurs du Tour de France, mais Georges, on a quand même surpris quelques-uns en train de manger une petite glace, hein Georges? Georges Quirino, il nous entend pas. On a peur. Oh bah oui, ils sont malades.
Il est malade.
Ils ont pris la grêle l'autre jour.
Georges fait de la résistance. Il est pas loin du forfait, mais pour l'instant.
Non. Pas de forfait, c'est pas possible. On peut pas abandonner le Tour de France. Si c'était une course mineure, on l'aurait autorisé à rentrer à la maison. Mais là, c'est pas possible. Allez, on va faire un top course. Fred, nous sommes à un peu moins de 120 km de l'arrivée de cette 10e étape.
Oui. La tête de course dans les vallées à la sortie de d'Axlétherme en direction de Luznac. Luznac vient d'être passé, la ville ariégeoise, et un groupe d'une quinzaine de coureurs est à nouveau groupé. Tout à l'heure, on avait Peter Sagan, le champion du monde, en compagnie de Samuel Dumoulin, le français d'AG2R, isolé. Eh bien, ils ont été repris par leurs anciens compagnons d'échappée. On trouve donc dans ce groupe, écoutez bien les noms, ce ne sont pas des coureurs forcément dangereux au classement général, mais il y a là du beau monde. Peter Sagan, donc Samuel Dumoulin, Rui Costa, l'ancien champion du monde, le portugais, Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour d'Italie et ancien vainqueur du Tour de France, Michael Matthews, le sprinter australien, Stephen Cummings, vainqueur d'étape en première semaine, le britannique de l'équipe Dimension Data, l'espagnol Izagir, coéquipier de Valverde et Quintana chez Movistar, Caruso est également là, l'italien de la BMC, Boasson-Hagen, le champion de Norvège, Durbridge et Impech et Orica Green Edge, Sylvain Chavanel chez Direct Energy, ainsi que Tony Galopin côté français. Et puis notez la présence, tiens, d'un coéquipier de Christopher Froome, un membre de la formation Sky, c'est le colombien Sergio Henao qui s'est glissé dans cette échappée. Il reste 119 km à parcourir en direction de Revel, et cette échappée conséquente, qui s'entend très bien, compte désormais 3 minutes d'avance sur un peloton qui a réagi quelque peu avec les Katyusha du sprinter Alexander Christophe à la barre de ce peloton.
Parfait, 3 minutes d'avance donc pour les hommes de tête sur le peloton maillot jaune. On revient sur cette 10e étape du Tour de France dans quelques instants. Et puis on n'oublie pas de nous proposer un nom pour le titre de l'épisode du jour pour cette 10e étape du Tour de France. Le hashtag RMC Live vous attend, à tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et après une journée de repos bien méritée, les coureurs du Tour de France ont repris la route aujourd'hui pour la 10e étape de cette grande boucle en direction de Revel. Ils sont partis d'Andorre tout à l'heure, ont escaladé le port d'Envalira et sont désormais dans la descente et dans la plaine qui va les mener jusqu'à Revel. Encore un peu moins de 115 km à parcourir, Fred. Et on va rappeler la situation qui est assez claire en tête de course.
Avec une petite quinzaine de coureurs échappés avec 3 minutes 30 d'avance sur un peloton qui se relève à nouveau. Ça y est, les Katyusha ont laissé les Sky à nouveau à l'avant du peloton. Il reste 115 km à parcourir dans la bruine ariégeoise en direction de Revel. Une étape de transition après la journée de repos passée à Andorre. Ça y est, le peloton du Tour de France à nouveau sur le territoire hexagonal en France. Composition du groupe de tête, le champion du monde Peter Sagan à la chasse au point du maillot vert et peut-être à la chasse à la victoire d'étape, lui qui en a déjà remporté une, on s'en souvient, c'était à Cherbourg, si mes souvenirs sont bons, à Cherbourg, ça commence à dater, et le vainqueur qu'est Peter Sagan a à nouveau soif de succès. Il est accompagné par un autre ancien champion du monde, le portugais Rui Costa, Vincenzo Nibali, l'italien leader de l'équipe Astana, vainqueur du dernier Tour d'Italie, est également présent. Côté français, notons la présence de Samuel Dumoulin, de Sylvain Chavanel, mais aussi de Tony Galopin. Vous le voyez, il y a du beau monde également présent dans ce groupe de tête. Stephen Cummings, le britannique, Edvald Boasson-Hagen, le champion de Norvège, Daryl Impey et Luke Durbridge pour Orica Green Edge, qui emmène leur sprinter Michael Matthews. Attention à lui dans le final. Et notez également la présence de Sergio Henao, le colombien de la formation Sky, car oui, Christopher Froome a bel et bien pour une fois laissé un bon de sortie à l'un de ses coéquipiers de la formation Sky, et également la présence de l'italien Caruso et de l'espagnol Izagir, équipier de Quintana et Valverde.
Alors il faut rappeler également que aucun membre de cette échappée n'est dangereux pour le classement général, hein, Fred, a priori, donc c'est pour ça aussi qu'on leur laisse un bon de sortie à tous ces gars-là.
Oui, ils ont tous pris, comme disent les coureurs, des tirs dans les étapes pyrénéennes, et voilà pourquoi l'écart culmine maintenant à 5 minutes de retard pour le peloton sur les échappés. Je n'ai pas encore regardé quel était le mieux classé au général. C'est Sergio Henao, l'un des lieutenants. Attention,
8e, pardon.
Attention à lui, en effet, si c'est bel et bien lui et c'est confirmé que Sergio Henao est en tête. Voilà pourquoi les Sky se sont mis en forme de rideau à l'avant du peloton. Ils ont un
leader
lieutenant,
de remplacement.
Un leader de substitution capable peut-être de prendre le maillot jaune à leur leader britannique Christopher Froome, qui ferait là un beau cadeau à l'un de ses coéquipiers modèles, Sergio Henao, qui pointait ce matin à 44 secondes de Christopher Froome. Ouais, ouais. Je suis quand même pas certain. Cyril, est-ce que tu me confirmes que c'est bien Sergio Henao qui est dans le groupe de tête, Georges ou Cyril?
Non. Henao n'est pas, c'est Landa qui est dans le groupe de tête.
Voilà.
Et le mieux placé au classement général est Caruso. Il est 25e à 12 minutes et 13 secondes.
Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Aucun danger donc pour le maillot de Chris Froome.
Ma très grande faute, excusez-moi. Mikel Landa, donc le coureur basque de l'équipe Sky qui est représenté à l'avant. Les Sky qui rigolent à l'avant du peloton. Ils ont joué un bon tour à tout le monde et ils vont passer a priori une journée tranquille au chaud au sein du peloton.
La moto RMC, on va retourner à l'avant de la course avec Georges Quirino qui se trouve donc en compagnie des hommes de tête. Est-ce que tout le monde s'entend bien pour l'instant, Georges?
Pas vraiment, on va dire, parce qu'on a revu il y a quelques secondes le maillot de champion du monde de Peter Sagan reposer une banderie, retenter un coup, attaquer. Il a été repris il y a quelques secondes. Le groupe a réagi, mais surprenant, Peter Sagan qui ne tient pas en place hein, depuis le début de cette étape et qui là, voilà, on l'a revu donc accélérer. Il a été repris. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment la grande entente pour l'instant dans ce groupe de tête qui arrive dans la localité d'Ornola, Cussalé. Sous la pluie, une fine pluie qui s'abat actuellement sur la tête de course de ce Tour de France.
Voilà, et il faut rappeler également, il y a un sprint intermédiaire dans quelques kilomètres, peut-être que Peter Sagan a envie d'aller prendre les points du sprint intermédiaire, mais enfin
avec le sprint intermédiaire. Hein.
Pardon,
40 kilomètres.
Car ouais, ça c'est un peu loin.
Il est dans 40 kilomètres encore.
Ouais, donc il y a un peu de temps encore pour Peter Sagan. Cyril, comment expliquer la tactique de Sagan aujourd'hui? Il ferait bien de rester quand même au chaud dans ce groupe d'échappés et de placer cette attaque un peu plus tard, non?
Oui, il veut absolument que cette échappée continue de rouler à un bon tempo pour ne pas être piégé sur le premier sprint et éventuellement pour ne pas voir le peloton revenir dans les derniers kilomètres, parce que on l'a vu il y a quelques 5 ou 6 kilomètres, l'équipe Katusha avait mis en route pour Christophe. On était à ce moment-là 2 minutes 30, ils se sont relevés, mais rien ne dit, puisque on a pu remarquer que Cavendish était rentré, qu'il y avait également dans le peloton Brian Coquard, et Coquard a peut-être intérêt tout à l'heure à faire rouler ses équipiers, même si Chavanel est à l'avant. Christophe a également intérêt à faire rouler ses équipiers. Greipel, même si à l'avant il y a Galopin, peut-être à faire rouler. C'est-à-dire qu'il y a quand même au minimum trois équipes qui vont avoir tout à l'heure intérêt à unir leurs efforts pour annihiler cette échappée. Et Peter Sagan, à mon avis, aimerait bien que l'écart monte beaucoup plus, de façon à avoir plus de chances de basculer en haut de la côte de Saint-Ferréol avec une certaine avance.
En tous les cas, le bon coup de la journée, il est pour la formation Sky, qui, en mettant un garçon dans ce groupe de tête, ne va pas endosser la responsabilité de rouler derrière l'échappée, Fred. Et ça, c'est une bonne chose, évidemment, parce que les jours qui viennent, peut-être pas demain, mais plus certainement après-demain, et évidemment la dernière semaine, ils vont être à la barre, hein, les coéquipiers de Chris Froome. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième journée de repos quasiment pour eux.
Oui, et Mikel Landa, le coureur basque de l'équipe Sky, n'est pas n'importe qui. Lui qui avait manqué de peu la victoire sur le Tour d'Italie l'an passé, après avoir remporté deux étapes, s'était incliné de justesse face à Alberto Contador. Mikel Landa est quelqu'un qui peut effectivement prendre le relais de Christopher Froome. En tout cas, là, il y a une partie de poker menteur qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on laisse plus de 5, 8, 10, 12 minutes à cet échappé, ou est-ce que le peloton réagit? Eh bien, voilà.
La réponse tout de suite.
Il a fallu un peu de temps au directeur sportif, au manager d'équipe, pour discuter dans les voitures, parce que Cyril nous le dira mieux que quiconque. On échafaude des stratégies entre voitures, entre directeurs sportifs au fil des kilomètres. On voit qui est dans le coup devant, qui ne l'est pas, quels intérêts ont les équipes à rouler ou à ne pas rouler. Et là, ce sont à nouveau les coureurs en maillot rouge de l'équipe Katusha qui réagissent, parce que l'écart est en train de monter à 6 minutes. Notons la présence à l'avant dans l'échappée, une échappée composée de 15 coureurs, de Greg Van Avermaet, qu'on n'avait pas cité également. Greg Van Avermaet, l'ancien vainqueur d'étape au Lioran et porteur du maillot jaune pendant deux jours. On rappelle la composition de ce groupe de tête brièvement: Sagan, Rui Costa, Nibali, Matthews, Durbridge, Impey, Cummings, Gorka Izagir, Gianpaolo Caruso et Greg Van Avermaet chez BMC, Boasson Hagen, le champion de Norvège, et côté français, Sylvain Chavanel, Samuel Dumoulin et Tony Galopin.
Vous avez été parfait. Il est 14h39, vous êtes sur RMC, l'intégrale Tour de France jusqu'à 18h évidemment. On va revenir sur l'étape d'avant-hier, hein, la dernière étape pyrénéenne, avec les enseignements, puisque la première partie du Tour de France est déjà derrière les roues des coureurs de cette grande boucle, et beaucoup d'enseignements ont déjà été tirés. On va vous en parler dans un instant, et puis on vous rappelle également, venez nous donner le nom de l'épisode du jour, le titre que vous voulez pour cette 10e étape du Tour de France. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 10e étape de ce Tour de France qui conduit le peloton depuis Andorre jusqu'à Revel, pas très très loin de Toulouse, pas très loin de Castelnaudary, un endroit où on aime bien manger. On va parler tout à l'heure justement de l'alimentation dans le Tour de France. Fred, il reste 106 km à parcourir et l'avance continue de grandir pour les hommes de tête, mais ça n'avance plus que très doucement maintenant.
On peut parler d'un écart stabilisé pour la tête de course à 106 km de l'arrivée, 15 coureurs, on vous le rappelle, avec 3 Français, Tony Galopin, Sylvain Chavanel et Samuel Dumoulin, également présents dans ce groupe de tête, Rui Costa, l'ancien champion du monde, l'actuel champion du monde Peter Sagan ou Greg Van Avermaet. Il y a du beau monde à l'avant.
Et il y a également à l'avant la moto RMC, évidemment, Georges Quirino.
Oui, derrière le gros groupe qui va pouvoir chasser la musette, récupérer la... Parce qu'on est dans la zone de ravitaillement actuellement à Mercu-Garrabet. On est en Ariège sous cette fine pluie. Tiens, on a vu une petite scène assez inhabituelle derrière le groupe de tête là. C'est Mikel Landa, le coureur de l'équipe Sky, qui demandait à être ravitaillé. Donc le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a appelé la voiture Sky. On avait beau se retourner avec Marco, on voyait pas la voiture Sky. On s'est dit, mais alors, où sont Nicolas Portal et Servet Knaven, les directeurs sportifs habituels? Et on a vu débouler une voiture Astana qui est venue à toute allure pour ravitailler Mikel Landa, le basque de l'équipe Sky. On rappelle que Landa, avant de venir chez Sky, était chez Astana. Donc est-ce qu'on s'est mis d'accord avec l'équipe Sky pour dire bon, on met pas de voiture devant, mais si notre coureur a besoin de quelque chose, si vous pouvez lui donner un bidon. Voilà, en tout cas c'est une scène assez inhabituelle qu'on a vu, voilà, derrière ce groupe de tête qui sort à l'instant même de la zone de ravitaillement et qui a bien récupérer la musette pour se ravitailler.
Ben voilà, la musette, on en parlera tout à l'heure évidemment, parce que vous aussi messieurs, vous avez ramené plein de choses dans votre musette. On évoquera tout cela dans quelques minutes. Alors, on va tout de suite donner un titre pour l'épisode du jour. J'ai quelques propositions sur le hashtag RMC Live, mais je vais demander tout d'abord à Cyril, à Georges et à Fred quel titre ils pourraient donner à l'épisode du jour. Est-ce que vous êtes inspirés messieurs? On va commencer par le druide, tiens Cyril.
Alors absolument pas.
T'es pas alors.
Ah, je suis sec de chez sec.
Mais ça c'est la journée de repos, ça te va pas vraiment.
Ah non, mais
là,
j'ai cherché quelque chose, il y a rien qui est venu. Non, là les coureurs sont un petit peu mouillés parce que je crois qu'ils bruinent un petit peu sur la course. Mais non, moi je suis à l'abri et là complètement sec. Alors si vous avez de bonnes idées, je suis prêt à applaudir.
Bon, on va voir si Fred a une bonne idée, puis Georges également. Réfléchissez messieurs, il reste quelques secondes.
Alors vu la composition du groupe de tête, avec notamment la présence du brillant sprinter australien, l'un des playboys du peloton, Michael Matthews, et vu que l'on arrive aujourd'hui au terme de cette 10e étape dans la cité de Revel, je dirais qu'aujourd'hui Michael Matthews se révèle.
Michael Matthews se révèle. Il y a pas mal de jeux de mots justement sur le Revel. Est-ce que c'est là qu'arrivera tout à l'heure cette étape? Georges, sur la moto.
Moi je pensais que ça allait arriver avec un sprint massif, donc là pour l'instant c'est plutôt mal barré on va dire, donc je pensais à Cocard se réveille, se rebelle à Revel.
Ah oui, rebelle à Revel. Florent nous dit Sagan Andorre avec un A, le sprint. Sassi Hugo nous dit Romain, ne t'endors pas et révèle-toi. Voilà, Romain Bardet, évidemment, hein, le meilleur français au classement général. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Florian nous dit les échappés ou les sprinteurs se révèlent. Oui, bon, Florian nous habituait à un peu mieux les jours précédents.
Lui donc, aussi sort d'une journée de repos, apparemment.
C'est une journée de transition, la journée de repos a été terrible. Lick nous dit, après le repos, on paye le revel de la médaille. Le revel de la médaille,
okay.
C'est pas mal, okay. C'est pas mal. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Y aura-t-il un rebelle à Revel, nous dit Aimi. Ou encore Sheka nous dit Chavanel le revel
des Français. Voilà, le Revel des Français.
Parce que... c'est pas la grande forme. Non, hein, c'est non, pas non, la grande non, forme. Non, je pense non. que l'étape de repos a été un peu négatif pour tout le monde. Hein. L'inspiration n'est plus là pour l'instant. Ouais, hein.
Mais ça va revenir. Aimi aussi nous dit quelle sera la Revel action à Revel. Voilà. Mais vous avez encore quelques minutes. N'hésitez pas. Si vous me donnez un bon titre, je vous cite évidemment à l'antenne. 103 km de l'arrivée. Georges, un nouveau petit coup d'œil, une petite carte postale. Il fait pas très chaud aujourd'hui sur les routes du Tour. Habituellement, c'est vrai que dans le sud-ouest, on a des canicules. C'est pas le cas cette année, même si avant-hier, évidemment, il a fait très chaud avant que l'orage de grêle ne s'abatte sur le peloton.
Oui, et exactement, on est le long de l'Ariège. Là, d'habitude, quand on passe dans ces régions-là, effectivement, on est plutôt en t-shirt. Là, on s'est bien couvert pour cette étape. 17,5 degrés, nous annonce le thermomètre sur la moto de Marco. La température qui a sensiblement baissé depuis que l'on a passé le col tout à l'heure, depuis le port d'Envalira, parce qu'il faisait chaud au départ en Andorre, pratiquement 28 degrés. On a eu du 38 degrés il y a deux jours lorsqu'on était sur les routes espagnoles, donc des températures qui évoluent assez largement sur ce Tour de France. On est toujours sous une petite bruine, là, la chaussée est humide derrière le groupe de tête qui est dans une phase de récupération. Voilà, on voit Peter Sagan qui vide une canette juste devant nous, Sylvain Chavanel qui ne s'en sort pas avec sa musette, qui est en train de replacer des barres énergétiques derrière lui dans ses petites poches et qui se débarrasse de la musette sur la droite et qui fait le bonheur d'un jeune spectateur qui n'attendait que ça pour lui, puisque certains attendent surtout les bidons sur le bord de la route, évidemment, de leur champion.
Très bien, vous savez qu'on nous écoute dans la caravane du Tour de France, notre confrère Yves Perret, journaliste.
Ah oui, j'avais oublié celle-là.
Pardon ? Ah oui, non, là on vient de donner une indication à Cyril, c'est pour ça. Oui, Cyril, dans un instant, c'est la causerie.
C'est ta rubrique.
C'est la recette du druide. Hein, donc là aussi, on va voir si t'es aussi sec que pour le nom de l'épisode du jour. Je vous le disais, Yves Perret, notre confrère qui s'occupe des relations presse de l'équipe AG2R La Mondiale, nous propose comme titre du jour le Revel Matthews.
Voilà. Très bien.
Hein, c'est pas mal. C'est
très
pas
bien
mal.
Pour une épreuve, le Tour de France qui s'est élancé pour la première fois en 1903, ouais. Du réveil matin à Montgeron. C'est pas mal le Revel Matthews.
Ah, ben oui. Il y a des lettres, hein, là. Ça rigole plus, là.
Hein. On franchit un cap.
Très bien. 101 km de l'arrivée. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé avant-hier dans l'étape des Pyrénées, l'étape reine des Pyrénées avec cette incroyable arrivée sous la grêle. On va tout de suite revivre ce moment. C'était donc avant-hier dans cette arrivée incroyable à Andorre Arcalis, précédemment dans le
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Info importante tout de suite sur les routes du Tour, Georges Quirino.
Oui, qui vient de nous être annoncé sur les ondes de Radio Tour. Cela vient du peloton avec l'abandon d'un des favoris du Tour de France, c'est Alberto Contador.
La tête de course à 14 km de l'arrivée, Thibaut Pinot qui commence à s'énerver quand même, parce que c'est vrai que les attaques se multiplient dans ce groupe de tête et il répond à tout ce qui bouge. Thibaut Pinot qui a fait le plein de gros points pour le classement de la montagne et qui devrait, selon toute vraisemblance, s'emparer du maillot à pois ce soir. Il reste 9 km à parcourir dans cette étape reine des Pyrénées et un homme en tête, il est hollandais, il s'appelle Tom Dumoulin, âgé de 25 ans, 6e de la dernière Vuelta. Tom Dumoulin qui compte 55 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque. Nouvelle accélération dans ce groupe des favoris avec Richie Porte, auquel répond Christopher Froome, avec dans sa roue toujours Nairo Quintana, et c'est cette fois Bauke Mollema, le hollandais, qui complète ce quatuor de favoris. Notez la tactique de Quintana depuis le début de cette ascension, il reste collé à la roue arrière de Christopher Froome.
C'est quand même très nouveau de voir dans une arrivée au sommet des coureurs attaqués,
alors que Tom Dumoulin, Fred, va en terminer dans quelques instants ici à Arcalis, sous le déluge, sous l'orage de grêle. Et depuis, Tom Dumoulin, grand bonhomme du jour.
Tom Dumoulin qui sourit, qui se marre, il a la banane, le jeune et beau coureur de l'équipe Giant Alpecin. Il lève les deux bras et il s'impose en solitaire ici pour une victoire de prestige à Andorre Arcalis à plus de 2100 mètres d'altitude.
RMC Tour de France 2016.
La victoire donc de Tom Dumoulin avant-hier dans cette étape à Arcalis avec des conditions incroyables, dantesques en fin de course et cet orage de grêle qui s'est abattu sur le peloton. Alors évidemment la victoire de Dumoulin est importante, mais ce qu'on retient également c'est la bagarre ou la non-bagarre pour le classement général. En tous les cas, la bagarre il y a eu, Fred, mais il n'y a pas eu d'attaque de Quintana sur Chris Froome. Mais ça a été un peu la frustration de cette étape de dimanche. On pensait peut-être que le Colombien pourrait essayer de mettre à mal la domination de Froome. Ça n'a pas été le cas.
Oui, il y en a eu des attaques, hein, notamment de Dan Martin, l'Irlandais de l'équipe Etix Quickstep. C'est vrai qu'on a eu des offensives de Bauke Mollema également, le Hollandais. On a eu des coureurs qui sont passés un peu par la fenêtre, notamment Fabio Aru. On a vu également un Richie Porte se transformer en adversaire de Christopher Froome, lui qui pendant longtemps a été son équipier chez Sky. Mais c'est vrai, on attendait de voir Quintana sortir de la roue arrière de Christopher Froome pour le mettre en difficulté. Christopher Froome a attaqué une ou deux fois et n'a jamais réussi à décrocher Nairo Quintana. Voilà peut-être une nouvelle stratégie employée par le Colombien de l'équipe Movistar. Le harcèlement non pas par l'attaque à répétition, mais peut-être le harcèlement par derrière, l'intox, la guerre de nerfs, celle qui pourrait énerver et pousser à bout Christopher Froome. En tout cas, il reste bien des occasions sur ce Tour 2016 à Quintana pour faire la différence et pour mettre à mal la supériorité de Christopher Froome, qui n'est pas si manifeste que cela. Il compte, Christopher Froome, à la sortie du massif pyrénéen, 16 secondes d'avance sur son dauphin, le jeune britannique Adam Yates, et seulement 23 secondes sur Nairo Quintana.
Ce qui fait que c'est l'un des écarts les plus faibles de ces 10 dernières années, Cyril. Donc ça veut dire que rien n'est joué, le Tour n'est pas encore dans la poche de Christopher Froome et qu'on devrait assister, on l'espère en tous les cas, dans les jours à venir et surtout lors de la dernière semaine à des choses magnifiques.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de coureurs à la sortie d'un grand massif montagneux, en l'occurrence les Pyrénées. Il y a seulement une minute et une seconde entre les 11 premiers. Vous avez pratiquement 16 coureurs, non 10, vous avez 14 coureurs qui sont, et l'un des favoris d'ailleurs porte, à moins de 2 minutes 10. Ce qui veut dire que les Pyrénées n'ont fait pratiquement aucun dégât, à part, j'ai envie de dire, les coureurs qui ont soit été malades, soit éventuellement victimes de chute.
Comme Contador quand même.
On n'a pas, mais c'est ce que je disais. Donc, en dehors de cela, il n'y a pas eu une vraie bagarre, il n'y a pas eu ce que l'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire, par exemple, comme l'an dernier, la fulgurance de Froome. On a pratiquement eu que des arrivées au sprint. J'ai presque envie de dire la seule attaque spectaculaire, mais qui n'a donné que 23 secondes d'avance à son auteur, c'est la descente d'Aspin par Chris Froome. Ça a été un grand moment, d'ailleurs, y compris sur le plan télévisuel, sur le plan artistique, j'ai presque envie de dire. Mais il s'est rien passé. C'est-à-dire que personne n'a été en capacité de faire le moindre écart à la pédale. Seule une descente l'a faite.
Effectivement, seule la descente l'a faite et Chris Froome a l'habitude d'aller chercher les gains marginaux, hein. Et en l'occurrence, ces quelques secondes pourraient peut-être lui faire le tour si Quintana ne l'attaque pas. Il y aura quand même d'autres occasions. Il y aura notamment un contre-la-montre vendredi où Chris Froome est considéré bien meilleur rouleur que Quintana. Mais bon, en tous les cas, pour l'instant, rien n'est fait dans ce Tour de France et on s'en félicite évidemment puisqu'on est encore loin de l'arrivée à Paris. Fred, rapidement, à 97 km de l'arrivée de cette 10e étape. Le point de la course.
97 km donc, et écart stabilisé aux alentours de 6 minutes. Une avance pour un groupe de 15 coureurs dans la vallée en direction de la Haute-Garonne et du Tarn. Parmi ces 15 coureurs, notez la présence du champion du monde en personne, Peter Sagan, de Rui Costa, de Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Giro. Michael Matthews est là également, tout comme Greg Van Avermaet et côté français, Tony Gallopin, Sylvain Chavanel et Samuel Dumoulin. 6 minutes 25 d'avance à 97 km de l'arrivée ici à Revel.
Rien n'est fait dans cette 10e étape du Tour de France. Rien n'est fait non plus pour le classement général de ce Tour. Tout reste à faire. A tout de suite, on se retrouve juste après les infos de 15h. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, on vous le rappelle, pour l'intégral Tour. Et ce sera comme ça jusqu'au 24 juillet.
RMC jusqu'à 18h, intégral Tour.